Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Valentin Bobinet. Deuxième temps de notre série consacrée aux forêts, après avoir étudié hier les liens entre agriculture et déforestation, avant d'évoquer demain le rôle de base arrière que peut jouer la jungle dans les conflits armés, puis jeudi les peuples autochtones, intéressons-nous aujourd'hui au commerce du bois et au rôle prépondérant de la Chine sur ce marché. Pékin à l'assaut de l'or vert, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Ce bois-là, je vais l'exporter en Chine, celui-ci.
Ce sont les bois qu'on a achetés en France cette année. En Chine, on avait des chênes, mais il ne reste pas grand-chose à cause de la déforestation à tout va. C'est pourquoi, en 2016, le gouvernement chinois a interdit de couper le chêne. Toutes les coupes sont interdites.
On laisse s'envoler en fumée des emplois, on laisse s'envoler de la richesse qu'on pourrait dégager dans notre pays, plutôt que de l'avoir produite dans des pays étrangers à faible coût de main-d'œuvre.
Nous avons vu tout à coup des Chinois débarquer dans nos forêts. Ce ne sont pas les seuls à venir ici, on a vu d'autres entreprises aussi, mais nous avons trouvé cela suspect.
En 2016, on estimait qu'il n'y avait encore que 35 à 40% du volume de chêne qui était exporté vers l'Asie. Un an après, on est à probablement plus de 60%.
Donc nous sommes assis sur un massif forestier où il est devenu impossible d'acheter un bout de bois.
C'est un secteur qui ne connaît pas la crise, ou presque. Le commerce du bois, qu'il soit destiné à l'industrie ou à la production d'énergie, a quasiment doublé au cours des 15 dernières années. Si les échanges sont dynamiques, multilatéraux, un acteur y joue désormais un rôle incontournable, Pékin. Des États-Unis à l'Afrique en passant par l'Europe, des chênes rouges d'Amérique du Nord aux essences tropicales précieuses, la Chine achète du bois au monde entier. Formidable opportunité pour les uns, accaparement inéquitable pour les autres, la grande offensive chinoise portée par une hausse de la demande intérieure est devenue en quelques années un élément clé pour comprendre les enjeux de ce marché. Mais si certains accusent Pékin, avec ses normes beaucoup plus souples que celles de l'Europe, d'encourager la déforestation de la planète, c'est bien une politique de reforestation qui se trouve aujourd'hui à l'œuvre à l'intérieur des frontières du géant asiatique. Après avoir sacrifié toutes ses forêts à la construction et à l'industrie durant la période maoïste, il tente en effet aujourd'hui de replanter des arbres pour rendre le pays à nouveau respirable de ses forêts nouvelles. Il est interdit de prélever la moindre essence, contraignant les industriels chinois à s'approvisionner précisément à l'étranger. Alors comment la Chine concilie sa propre exigence environnementale et ses importations massives? Quel pays tire profit de cette situation? Quel pays en souffre? La guerre commerciale menée aussi par les États-Unis a-t-elle changé la donne? Autant de questions, en tout cas certaines d'entre elles, sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin avec un invité, Emmanuel Groutel. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être notre invité ce matin. Vous êtes docteur en gestion, un spécialiste du commerce international du bois. Il y en a assez peu, donc on est ravis de vous avoir. Et vous êtes par ailleurs consultant pour la FAO, la FD et l'Union européenne. Vous avez notamment écrit un ouvrage sur le commerce du bois qui s'appelle « Le temps du bois », note stratégique et prospective, on aura l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, quand on travaille, Emmanuel Groutel, sur le secteur du bois, on réalise cette place centrale de Pékin. Moi, je connaissais très très peu ce sujet, disons-le, même quasiment pas du tout. La Chine est premier importateur de grumes, premier importateur de sciage, premier consommateur de sciage, premier producteur de sciage à peu près à égalité avec les États-Unis, premier producteur de panneaux. Bref, la Chine, elle est au cœur de ce secteur bois-forêt, clairement.
Comme vous venez de le souligner, la Chine a repris sa place au niveau de l'échiquier mondial et est devenue, par ses besoins intérieurs, aussi par sa réexportation, comme ce qui était souligné dans le reportage introductif, pour ces deux raisons, la Chine a besoin de bois comme elle a besoin d'autres matières premières. Il suffit de penser au soja, au fer. Et...
Ça fait longtemps qu'elle a cette place
centrale. Non, elle est revenue dans le concert des nations. Finalement, après la période Deng Xiaoping, on cite souvent le dirigeant chinois qui indiquait qu'importe la couleur du chat pourvu qu'il attrape des souris. Bon, eh bien, il en va de même sur ce développement à tout va. Et on a vu apparaître de façon plus prononcée la Chine dans le commerce international du bois dans les années 80. Donc c'est un phénomène récent.
Il y a une chose qui est frappante, c'est qu'on parle évidemment très souvent de la Chine et de sa place dans l'économie mondiale. Et pourtant, on parle quand même assez peu de la place qu'elle y tient dans le secteur du bois, de la forêt. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, ce n'est pas un secteur très stratégique.
Alors bon, le bois aujourd'hui au niveau mondial, on considère que c'est 250 milliards de dollars d'échanges. C'est beaucoup et c'est très peu comparé à d'autres secteurs d'activité par rapport aux vêtements par exemple. Hein, que les vêtements, c'est 500 milliards de dollars d'échanges internationaux.
Ce n'est que deux fois plus.
Voilà, ce n'est que deux fois plus.
Mais donc c'est un marché qui est très important.
C'est un marché...
Donc stratégique, a priori.
Alors, qui revêt un niveau stratégique, puisqu'on va utiliser le bois, comme vous le signaliez au départ, à la fois comme matériau et également comme produit destiné à faire de l'énergie. Les Chinois vont s'intéresser dans leur travail d'importateur, surtout au bois dit industriel. Et ils ont à la fois ce besoin intérieur considérable et ce besoin de réexporter. Alors on est avec des... Alors la Chine a conservé quand même un couvert forestier, pas forcément celui qu'on imaginait lorsqu'on est européen. Lorsqu'on va en Chine, on va voir beaucoup de peupliers. Le long des petits champs, beaucoup de petits agriculteurs ont quelques lignes de peupliers. Dans le sud, ça va être des plantations d'eucalyptus. Et ces arbres sur pied vont être utilisés au fur et à mesure des besoins du ménage, d'un déménagement ou autre. Je ne parle pas ici... de ce que vous indiquiez au préalable concernant les forêts natives chinoises.
On reparlera tout à l'heure de la Chine et de effectivement ce grand programme de reforestation qu'elle a mis en place tout à l'heure avec Stéphanie Boufflet. Je vous posais la question de savoir si le bois était un enjeu stratégique ou pas, un peu naïvement, juste avant de prendre l'antenne. Donc j'évoquais le titre de cet ouvrage, Le Temps du Bois, et vous m'expliquiez que c'est un titre qui fait référence à un autre ouvrage des années 40, la fin des années 40, où pour le coup, on voyait en tout cas, l'auteur de cet ouvrage, vous allez nous dire qui c'est, puisque c'est un ancien directeur de la FAO, considérait que le bois serait, dans les décennies à venir, je crois que c'était à l'horizon des années 70, central dans les besoins de l'humanité. Donc il y avait cet enjeu stratégique déjà en tête.
Alors effectivement, ce petit essai, Le Temps du Bois, fait référence à un ouvrage publié en 49 par Egon Glessinger, qui était un des fondateurs de la FAO. Et c'est très très intéressant de lire aujourd'hui un ouvrage de prospective écrit dans les années 40-50. Donc lui, son futur, à ce moment-là, son terme, ce sont les années 80. Il se projette dans les années 80 et il dit ça va être le temps du bois. The coming age of wood. Alors, il imagine, partant finalement des travaux des ingénieurs allemands, entre les deux guerres, les années 30, hein, il faut savoir que le bois a été utilisé de façon stratégique pendant le premier conflit mondial. Ça a donné naissance à l'aéronautique, hein, puisque les avions étaient en bois. Hein. C'est l'histoire de la famille Dassault, par exemple. Eh bien, Glessinger reprend les travaux des ingénieurs allemands qui, à l'époque, vont développer des techniques pour utiliser les fibres de bois pour faire des tissus, pour faire de la nourriture, pour faire du carburant. Et tout ça est déjà intégré en préparation d'un conflit en devenir, ou en tout cas de risques de coupures d'accès, par exemple, au pétrole. Et on sait très bien l'enjeu que ça a eu, considérable, dans le second conflit mondial.
Mais si on regarde un petit peu les choses aujourd'hui, a posteriori, on peut dire que ce directeur de la FAO s'est un tout petit peu trompé dans ce qu'il imaginait quand même être un matériau absolument central dans le développement du monde à l'horizon des années 70-80. En réalité, ce bois-là, on n'en a pas eu autant besoin que ça ?
Totalement. Il s'est trompé. C'est intéressant de regarder un prospectiviste qui se trompe, sans doute au niveau du temps. Le temps du bois, c'est pour ça qu'il est sans doute venu maintenant, et c'est pour ça que c'est un produit certainement stratégique. On est autant des constructions en hauteur en bois. On cherche des produits capable de stocker le carbone. On cherche des produits fabriqués localement. On va chercher également à éviter de l'importation de produits pétroliers. Et enfin, il y a tous les développements technologiques, les nanofibres notamment, qui vont être mobilisables pour les imprimantes 3D.
Donc ça veut dire qu'en réalité, le The Edge of Wood, le temps du bois, il va venir maintenant, en fait, en réalité.
C'est peut-être voilà, ça va être un mixte, très certainement.
Emmanuel Groutel, on le comprend aujourd'hui, c'est Pékin donc qui est au cœur de ce marché international du bois. Quelles sont les régions qui sont particulièrement concernées par cette fièvre chinoise sur le bois ? On voit bien que Pékin achète du bois tout azimut, mais où est-ce qu'il en achète en particulier ? Faisons un peu de géographie.
Le premier fournisseur de la Chine, c'est son grand voisin du Nord, c'est la
Russie.
C'est la Russie. Même si on enregistre ces derniers temps une baisse des importations chinoises en provenance de Russie. Il y a un très très grand port terrestre qui s'appelle Mandchourie, qui est un des plus importantes zones de logistique en Mongolie intérieure. On voit les volumes qui sont en train de baisser. Nonobstant cela, c'est bien la Russie qui est le premier fournisseur. Ensuite, ça peut être un peu contre-intuitif comme ça, ça sera suivi de la Nouvelle-Zélande. Et avec des bois, on critique toujours un peu nos amis chinois, mais avec des bois qui sont gérés de façon soutenable. Donc la Chine importe...
Du feuillu, du résiné, quel type de bois ?
C'est simple, une ligne. 10 millions de mètres cubes de pain radiata par an.
Et sous quelle forme ? Parce que ça, c'est important. Grume, ou est-ce qu'on transforme avant et ensuite on exporte ?
Concernant les importations chinoises depuis la Nouvelle-Zélande, c'est essentiellement du bois brut sous forme de grume.
Une grume étant évidemment le rondon.
C'est le
tronc d'arbre.
Le tronc d'arbre.
Voilà,
tout à fait.
Les branches. Vous parliez de la Russie. C'est un pays qui évidemment possède d'immenses forêts. C'est 22% du couvert mondial. Et pourtant, la Russie ne contribue en valeur que pour une part relativement faible, même si concernant la Chine, c'est important, mais relativement faible de la valeur totale du commerce international. Comment le comprendre ? Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Je crois qu'il y a eu à un moment un fléchissement au milieu des années 2000. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la Russie a décidé de ralentir ses exportations de bois ?
Alors, a-t-elle décidé ou est-elle contrainte ?
Quand on augmente ses droits de douane en général sur les grumes, c'est qu'on décide, non ?
Alors, il y a sans doute, comme je suis un adepte de la complexité, il y a sans doute plusieurs raisons qui viennent se compléter l'une l'autre. J'ai pendant plusieurs années donné des cours de commerce international du bois à l'école supérieure du bois, et ma première intervention était toujours avec les mêmes mots. C'est simple, le bois c'est un produit logistique, et après des taxes. Et enfin, faut transformer quelque chose qui est rond, cylindrique, en des choses carrées. Alors, pourquoi j'insistais, et j'insiste toujours sur l'aspect logistique du bois ? Vous pouvez avoir la plus belle forêt du monde, la plus grande forêt du monde, avec les plus beaux bois du monde, si c'est éloigné des routes de transport, ou si les coûts de transport sont prohibitifs, eh bien c'est un facteur limitant.
C'est le cas de la Russie.
C'est le cas de la Russie. Ensuite, en ce qui concerne les taxes, les dirigeants actuels ont déjà eu dans le passé des velléités d'augmentation importante des taxes sur les grumes afin de créer plus de transformation dans les pays. Ils ont été souvent contraints de faire marche arrière. Alors effectivement, là, plus récemment, il y a eu des taxes de mise en place en Russie. On verra, compte tenu du contexte international, qui est plutôt tendu, difficile, dans le secteur du bois comme dans d'autres, on verra si les Russes tiennent longtemps leur position quant aux taxes.
Alors parlons justement de cette actualité internationale. Lors du dernier G7 de Biarritz, Emmanuel Macron a abordé cette question, la question de la menace américaine de hausse des tarifs douaniers sur le vin français, pour dire qu'elle n'aurait pas forcément les effets escomptés. Et pour illustrer son propos, il s'est appuyé sur l'exemple du bois canadien importé aux États-Unis qui n'aurait pas, l'a-t-il dit, été touché par les hausses douanières américaines. Alors d'abord, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots quelles avaient été les décisions de Donald Trump en la matière? Comment est-ce qu'on avait décidé de relever les hausses douanières de ce bois canadien vers les États-Unis? Et puis ses effets, puisque Emmanuel Macron nous dit que ça n'a pas eu d'effet.
Alors, prendre comme modèle la dispute permanente entre le Canada et les États-Unis en ce qui concerne les droits et tarifs douaniers, je ne pense pas que ça soit judicieux. Cette dispute existe depuis 25, 30, 40 ans sans doute, et régulièrement les États-Unis accusent leurs voisins canadiens de supporter artificiellement leurs forestiers. Et c'est pour ça que régulièrement, sous la poussée des lobbies américains, états-uniens, donc tous les présidents sont passés par des demandes de taxation sur les bois canadiens.
Oui, il y a des crises diplomatiques entre les deux pays dès le début des années 80. C'est justifié, justement, cette accusation de Washington, c'est-à-dire de considérer que, en réalité, le Canada subventionne son secteur sylvicole?
Alors, si on appelle subventionner, par exemple, subventionner, ça peut être, par exemple, protéger ses forêts, aider les sylviculteurs à mettre en place plus de plans, avoir des taxes sur le système social adaptées à ce type d'activité, prendre en compte la saisonnalité du travail. Oui, on peut toujours, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, hein, donc on peut toujours trouver dans ces échanges économiques des soutiens.
Non, mais là, ce que dit Donald Trump, c'est pas, ne reproche pas de protéger les forêts canadiennes, il reproche de subventionner l'industrie du bois, les scieries, et donc de tirer les prix vers le bas, c'est ça qu'il dit.
Eh bien, pour les Canadiens, c'est faux. Pour les Américains, c'est vrai. Là, ça demanderait une expertise particulière, neutre, qui prendrait beaucoup de temps. Et voilà.
Alors, Emmanuel Groutel, si on reprend ce que disait Emmanuel Macron sur les effets de cette taxe, est-ce que effectivement l'augmentation des tarifs douaniers sur le bois canadien a provoqué une baisse des exportations du bois canadien vers les États-Unis? C'est ce qu'on a remarqué?
Oui. Alors,
attention,
quelques chiffres. Bon, on a connu cette folie de la construction américaine avant les années 2005-2006, où les États-Unis sont montés à 2 millions de logements par an. Donc toute cette affaire des subprimes et éclatement, Lehman Brothers, tout ce qu'on a suivi. 2008, le logement aux États-Unis, ce sont plus que 500 000 logements par an. On passe de 2 millions à 500 000. Et puis, on a vu une remontée tranquille, régulière, de la construction aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas besoin d'importation de bois, on considère jusqu'à 1 million de logements par an. Ils deviennent dépendants de l'importation à partir de ce chiffre. D'où peuvent-ils trouver leur bois? évidemment au Canada qui est au-dessus, l'Allemagne, la Scandinavie, qui sont des grands fournisseurs. Alors, la situation économique aux États-Unis est plutôt favorable. Ils sont sur un niveau de construction qui est intéressant.
Au-dessus d'un million ou pas? Parce que
ils sont,
c'est le
ils
seuil,
sont entre 1,3 million et 1,4 million.
Donc, ils ont besoin du Canada.
Ils sont dans un étiage normal, compte tenu de leur démographie, compte tenu du renouvellement nécessaire de leur logement, puisqu'ils construisent en bois et de façon, on pourrait dire, précaire, le mot est peut-être un peu fort, mais légère. Et on voit bien à chaque fois qu'il y a des vents violents aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de dégâts. Bien sûr, les vents sont importants, mais les constructions sont aussi légères. Donc, dans un contexte de consommation américaine, pour faire pression sur le ministre Trudeau, bon, il est de bon ton de titiller cet aspect tarif avec le Canada.
Mais est-ce que ça marche? Parce que, alors, de ce que j'ai lu, et je parle sous votre contrôle, vous me direz si j'ai tort, et surtout si la conclusion à laquelle j'arrive vous semble bonne ou mauvaise. Parce que ce que j'ai visiblement compris de tout ça, c'est qu'il a augmenté les tarifs douaniers sur le bois, qu'au départ, ça a augmenté évidemment significativement le prix du bois canadien, mais que par la suite, ce prix a commencé doucement à baisser jusqu'à revenir au niveau d'avant la hausse des tarifs douaniers, voire même plus bas. Parce que si c'est le cas et qu'il a réussi finalement à faire baisser le prix du bois canadien, il a gagné son pari, Donald Trump.
Alors, Trump, il n'a pas intérêt à ce que le bois canadien baisse.
Est-ce que c'est juste ce que j'ai décrit d'abord?
Oui, mais ça s'inscrit finalement dans un marché global, international, qui s'avachit aujourd'hui. On est rentré dans une autre nouvelle période de crise.
C'est pas simplement la décision de Donald Trump.
C'est le marché global, bien sûr.
D'accord.
Ces disputes avec la Chine ont une incidence et tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe également.
Justement, les disputes avec la Chine, est-ce que elles s'illustrent aussi dans le domaine du bois?
Considérablement.
C'est-à-dire?
Eh bien, je vais prendre quelques exemples. Dans le reportage enregistré, on entend un sieur de chêne français qui se plaint, alors en évoquant des chiffres qui sont sans doute un petit peu forts sur le pourcentage de chêne français exporté en Chine.
C'est un extrait, je le note, extrait d'un reportage de France 2 du mois de mai dernier. À César ce qui est à César.
C'est de bon ton lorsqu'on défend sa position de grossir un peu les traits. Bon, là, c'était un peu caricatural. Prenons l'exemple du chêne. Les chênes français, notamment, se vendaient très, très facilement en Chine jusqu'au mois de décembre l'année dernière. Là, on est sur un fléchissement de ce marché-là. C'est un indicateur. Même si la France est un tout petit fournisseur pour la Chine, en grume, on arrive en 10e position derrière quantité de pays. Mais prenons les bois tropicaux qui vont vers la Chine. Un arrêt, le mot serait dur, mais c'est sans doute une chute de 70 ou 80% des importations chinoises en provenance du continent africain.
Mais attendez, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, Emmanuel Groutel. Ça fait des mois que les scieries françaises disent, et notamment pour la question du chêne, on n'a plus de matériaux, on n'a plus de chêne, on peut plus. C'est une catastrophe pour nous, et même certaines scieries visiblement ont fermé précisément à cause de ça, parce que la Chine visiblement achèterait trop de chênes français, que les scieries françaises n'auraient plus de grumes de chêne.
Alors, là, c'est...
Oui ou non?
C'est un sujet...
C'est ce que j'ai lu partout hier.
Je dois me faire crucifier en sortant de votre studio, en donnant mon opinion. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le prélèvement effectif de grumes de chêne en France. Il est en chute. En fait, le prélèvement est en chute. Donc, ça resserre l'approvisionnement des scieries. Donc, ils souffrent véritablement. La Chine a eu ou a un impact non négligeable, mais pas exclusif, et pas forcément sur des qualités complètement utilisé en France. Le chêne s'utilisait comme d'autres feuillus, les feuillus précieux, s'utilisaient notamment pour l'industrie du meuble. L'industrie du meuble utilisant du bois massif, ça n'existe plus, ou quasiment plus. Donc, on a une partie du marché qui a disparu. Ensuite, on a eu un positionnement marketing et un positionnement technique ou technologique qui était sans doute assez faible. Donc, on a d'abord à faire notre autocritique. Observons les exportations vers la Chine. Je pense qu'il y aura
donc
moins
de pression. Donc, quand l'industrie du bois française dit « on est en train de péricliter à cause des importations chinoises », c'est un raccourci un peu abusif, selon vous.
Vous êtes
d'accord qu'il y a des séries, des séries françaises qui ferment ?
Alors, le phénomène de fermeture des séries, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que les séries sont importantes, elles sont structurantes des territoires, ce sont des emplois partout dans nos provinces.
C'est 26 000 emplois à peu près aujourd'hui.
Voilà, et malheureusement, cette concentration, restructuration, disparition des scieries, elle est en marche depuis une bonne trentaine ou quarantaine d'années. Donc c'est pas un phénomène qui date simplement de la montée en puissance de la Chine en tant qu'importateur de grumes.
Et pas seulement d'ailleurs du côté de la France, justement, cette restructuration, on le voit dans d'autres pays d'Europe. Cette arrivée de la Chine, cette appétence de la Chine pour ce bois, j'imagine qu'elle a aussi un impact sur le foncier forestier. Il y a bien des acteurs, alors je ne sais pas lesquels, publics, privés, qui profitent de cette augmentation du foncier forestier.
Alors, l'augmentation du foncier forestier va chercher ses sources ailleurs. Dans la fiscalité, qui peut être intéressante en termes de droits de mutation, si on prend l'exemple français, les locations de chasse qui peuvent être rémunératrices, ça a peu de rapport avec le bois. Il y a l'aspect loisir de citadins qui veulent acquérir un espace pour eux et la France en dispose encore de possibilités, ce qui n'est pas le cas, par exemple, si on était aux Pays-Bas, en Belgique, voire en Grande-Bretagne. C'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à la propriété foncière en forêt. Donc, faut aller chercher ça ailleurs. Maintenant, il y a une pression sur le foncier au niveau international. Les Chinois, c'est 50 millions d'hectares de forêts déjà acquises dans le monde.
Emmanuel Groutel, compte tenu de cet environnement de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais de guerre commerciale, j'allais dire, latente en réalité, évidemment la mondialisation a fait émerger un régime de rivalité, de concurrence extrêmement fort, est-ce que on voit aussi apparaître dans le domaine de la sylviculture une forme de protectionnisme, et est-ce que vous pensez qu'il va monter en puissance ? D'autant plus qu'évidemment, il y a les considérations purement économiques, mais viennent s'ajouter les considérations environnementales. C'est-à-dire que de plus en plus, vous avez besoin de protéger évidemment vos forêts, et que d'une certaine manière, en mettant de nouveaux régimes précisément sur vos forêts, de nouvelles règles sur la déforestation, bien vous améliorez évidemment votre propre environnement. Donc c'est doublement crucial. Est-ce que vous pensez qu'on va vers un régime de protectionnisme sylvicole généralisé ?
Les temps sont au protectionnisme, au nationalisme, à la protection de terroirs, de territoires.
Donc on le voit aussi dans la forêt. Comment ça s'illustre dans la forêt ?
Eh bien, c'est amusant. On voit de plus en plus des logos, des marques se développer en France, la belle France, en Suisse. En Grande-Bretagne, on voit de plus en plus des logos se mettre en place pour indiquer aux acheteurs, aux distributeurs, pas forcément au grand public, parce que le grand public va pas forcément savoir d'où sont issus les produits, mais en business to business, eh bien, on voit ce développement assez important. 250 milliards d'échanges, et avec un doublement ces 15 dernières années, il est loin d'être sûr qu'on va vivre un doublement dans les 15 années qui viennent. Mmh. On se reverra dans 15 ans, j'espère. Et je crois qu'on ne sera pas à 400 milliards d'échanges. On va vers des régionalisation en termes de consommation, de plus en plus.
Avec plaisir pour le rendez-vous d'ici 15 ans, si on est là. Est-ce que ces labels, ces certifications, elles sont fiables?
Alors, labels et certifications, je vais faire une petite différence. Oui. Bon, les certifications, il y a deux grands leaders au niveau mondial, un qui s'appelle PEFC, qui couvre 300 millions d'hectares dans le monde, et FSC qui couvre à peu près 200 millions d'hectares dans le monde. L'un est né de la volonté de propriétaires forestiers, et l'autre est plutôt issu du monde des ONG, à la base, WWF ou Greenpeace, voire d'autres. Donc, 500 millions d'hectares, ça pèse. 4 milliards d'hectares de forêt dans le monde, 500 millions d'hectares, c'est important. Alors, il peut y avoir, de temps en temps, des bévues, certaines émissions, je me souviens de celle de Mme Lucet qui mettait un petit peu, qui tournait au ridicule certaines certifications. Globalement,
un cash investigation sur IKEA, non?
Ouais, voilà. Et puis bon, il y avait eu le Mont Ventoux qui était grosso modo certifié PEFC. Donc, comme on le sait, sur le Mont Ventoux, il y a très très peu.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que il y a des problèmes, mais que globalement, c'est plutôt fiable, ces labels et ces
globalement,
certifications.
Globalement, ce sont d'excellentes références. Il y a une exigence qui va, il y a un continuum au niveau des exigences, il y a une amélioration continue certaine, et puis il y a les ONG qui veillent au grain. C'est ça, ces 15 dernières années ou 20 dernières années, ça a été l'arrivée des ONG comme veilleurs, comme gardiens du temple. Et je travaille fréquemment, moi, notamment avec FSC.
C'est quoi,
Forest Stewardship Council, okay. FSC, dans le bassin du Congo, est une référence absolue. Voilà.
Je reviens sur la question de la protection et même du protectionnisme. Il y a depuis 2010 en Europe un règlement commun sur le bois, le RBUE, qui est entré en vigueur en mars 2013. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Emmanuel Groutel, ce qu'il prévoit, dans quel contexte il a été décidé et le bilan qu'on peut en faire aujourd'hui?
Alors, le RBUE de mars 2013, il couvre 7 secteurs, mais dont deux qui sont principaux. Tout d'abord, éviter l'importation de bois qualifiés d'illégaux sur le marché intérieur, sur le marché européen. Mmh. Alors, il faut toujours s'entendre sur la définition de l'illégalité, hein, on est quasiment dans la philosophie. Et en même temps, donner des aides aux pays producteurs afin qu'ils montent en qualité sur le respect de la légalité dans leur propre pays. Donc, en tant qu'importateur, on va utiliser le vocable de metteur en marché. Les metteurs en marché, ceux qui vont introduire pour la première fois les produits sur le marché européen, sont tenus de faire une diligence raisonnée, a due diligence, c'est-à-dire faire la démonstration que le produit qu'ils ont acheté vient de sources sûres.
On contrôle, parce que c'est bien gentil de s'appuyer sur la bonne volonté des uns et des autres, mais il faut surveiller, il faut contrôler.
Alors, on est en Europe, avec différents États, différents peuples et différentes cultures et mentalités. Certains ont mis d'emblée une exigence importante, comme les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, l'Angleterre, voilà. Il y a eu des élèves qui étaient un petit peu plus décontractés, on va dire, comme la France, la Belgique. Et puis certains qui n'ont pas du tout pris en considération le règlement bois de l'Union européenne.
Qui n'ont pas respecté leurs engagements.
Voilà, notamment certains pays latins. Cette réglementation, elle est relativement récente pour un règlement européen. Il a 6 ans et c'est aujourd'hui qu'on voit les effets, arriver et avec un renforcement, par exemple, d'une place d'importation importante pour le bois, qui est le port d'Anvers.
Il y a un dispositif de contrôle ou pas ?
Chaque pays...
Il y a des amendes éventuellement des...
Alors, donc, chaque pays a un organisme, une autorité compétente qui peut contrôler... Alors, ça peut être, pour certains pays, les douanes, pour d'autres pays, le ministère de l'Agriculture, pour d'autres pays, l'environnement. En France, on a fait simple, on a pris deux ministères différents, l'environnement et l'agriculture. Ça dépend de quelle activité vous avez. Bon, dont acte. Oui, alors,
enfin, il peut y avoir... Pardon, mais si, je vous vois venir, s'il n'y a pas d'agence supranationale, je vois mal un ministère appliquer une amende à un autre ministère. Ça n'a aucun sens.
Non, il ne contrôle pas forcément les mêmes opérateurs. Donc, chacun est dans son silo. Alors, oui, il y a des amendes. Oui, il y a des saisies de bois. C'est le cas en ce moment, il y a un cas très intéressant en Belgique, par l'autorité compétente belge qui a saisi des bois qui est considéré comme illégaux. C'est un titre d'exemple. C'est ça qui est intéressant, c'est la peur du gendarme. On voit bien sur nos routes, il y a eu un certain relâchement. Sur la légalité, l'importation, il en va de même. Donc oui, on est venu au temps des contrôles.
On est avec vous ce matin, Emmanuel Groutel, dans cette semaine consacrée aux forêts. Aujourd'hui, commerce du bois, Pékin à l'assaut de l'or vert. Et on va justement prendre la direction de la Chine.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et si la Chine est aussi vorace dans le secteur de la sylviculture, c'est qu'elle ne veut pas couper ses propres arbres. Et pour cause, le pays est lancé dans une grande campagne de reboisement. C'est la Grande Muraille Verte.
Nous avons maintenant 11 000 km² de forêt dans la province et nous dépensons 2,7 milliards d'euros chaque année pour cela. Ces arbres absorbent 120 millions de tonnes de carbone, c'est considérable. L'agriculture absorbe aussi le carbone, mais l'avantage des arbres, c'est qu'ils sont plus efficaces et plus ils grandissent, plus ils absorbent. Enfin, ils vivent des décennies, voire des siècles.
Pour chaque sac saoul que je plante, je touche un centime de franc. Cela me permet de toucher un salaire de 600 francs par mois. Ça a vraiment amélioré ma vie, c'est bien mieux.
Voilà, un extrait d'un reportage de la radio-télévision suisse. On va retrouver une nouvelle invitée. Bonjour Stéphanie Boufflet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes architecte, docteur en urbanisme, et enseignante à l'école d'architecture de Paris Val-de-Seine. Est-ce que vous pouvez, Stéphanie Boufflet, en quelques mots, nous présenter ce vaste projet de reboisement et puis surtout, ce que vous allez nous expliquer, c'est les racines de tout cela, c'est-à-dire pourquoi la Chine est aujourd'hui engagée dans cet immense projet de reboisement. Stéphanie Boufflet.
Alors déjà, j'aimerais juste commencer par parler d'une culture de la nature qu'on n'entend peut-être pas assez parler sur la Chine traditionnelle, qui s'en est bien éloignée, mais où en fait l'un des styles de peinture traditionnelle est la peinture des trois années de l'hiver, qui sont trois arbres, qui sont le pin, le bambou, le prunier, qui constituent en fait, dans lequel en fait il y a une symbolique, la force, le courage, la persévérance, la noblesse, et en fait dans lequel tout homme de bien traditionnel est censé en fait s'identifier et donc aller en fait vers un idéal. Donc l'arbre est un élément du monde vivant vers lequel l'homme chinois traditionnel est censé en fait s'approcher. Donc il y a une véritable symbolique qui est assez importante. Et quand Mao prend le pouvoir en 1949, c'est bien contre ces idéaux-là qu'il va acter en fait toute sa politique. Et donc il y a une véritable guerre de la nature qui se met en place, avec l'anéantissement des rivières, des montagnes, éradication de la faune. D'où là, en fait, on a tout un idéal qui est en rupture avec cette culture de la nature et qui va amener, en fait, le début du désastre environnemental que la Chine, en fait, subit.
Vous êtes en train de nous dire, Stéphanie Boufflet, qu'en réalité, si aujourd'hui on replante des arbres, c'est parce qu'on en a coupé massivement et que ces coupes massives s'inscrivent aussi dans la révolution culturelle engagée par Mao.
Ah, s'engage surtout, La naissance en fait du désastre environnemental est à remonter au XXe siècle, donc début de la révolution industrielle, mais c'est surtout l'ère maoïste qui a été coupée des arbres par milliers, mais je ne saurais pas dire les chiffres parce que je ne suis pas assez calée là-dessus. Mais en tout cas, l'idée c'était d'aller couper les arbres pour alimenter les aciéries, puisque l'idée c'est révolution culturelle, enfin les premiers bons, en fait, c'était acté sur des nouvelles petites aciéries, donc il fallait du bois, donc on a coupé du bois. Donc toutes les déforestations massives du nord de la Chine datent de cette époque-là, en complément, en fait, de cet idéal qu'il fallait vaincre, fallait supplanter la nature d'une certaine manière.
Alors, qu'est-ce qui se passe après Mao ? Il y a Deng Xiaoping qui arrive. On ferme la page, justement, de cette déforestation et on ouvre celle de la reforestation, du reboisement ?
Exactement. En fait, dans les années 80, déjà années 70, il y a des prises de conscience sur les enjeux environnementaux parce qu'on a des tempêtes venues de Mongolie, des déserts en fait qui commencent à assécher les villes, qui commencent à s'urbaniser tout doucement. En 1978, est mené en place en fait donc le projet de la Grande Muraille verte. Aujourd'hui, 42% de la Chine est sujette à la désertification, c'est énorme. Et donc en fait, l'idée c'est que la Grande Muraille verte en fait, elle est 27% du territoire touché par la désertification, excusez-moi, et c'est 42% du pays qui est sujet en fait au projet de Grande Muraille verte qui va se développer assez doucement en fait dans les années 80, 90, on n'en entend pas beaucoup parler. 89 Tiananmen, 93 la Chine espère avoir les JO pour 2000, on lui refuse pour des raisons environnementales et à partir de ce moment-là en fait les institutions vont mettre le paquet sur l'environnement pour des raisons politiques, pour être assis sur la scène internationale. Et donc, 2001, on a l'année de la forêt, et là, on va commencer à avoir des grandes campagnes de reforestation. Donc, le petit extrait qu'on a entendu tout à l'heure, voilà, c'est à partir du début des années 2000 où on commence à donner à des paysans qui n'ont plus rien, en fait, parce que la terre, elle est totalement aride. Donc, on leur donne des sacs de riz contre des plants d'arbres à planter. Problème, il n'y a pas d'eau. Enfin, problème, on plante qu'une seule essence ou deux essences. Mais en tout cas, il y a un grand programme qui est mis en place et chaque ville en fait va développer de la ceinture verte jusqu'à la rue en fait un programme de boisement.
Oui, parce que c'est-à-dire que cette reforestation, Stéphanie Boufflet, elle ne se limite pas à cette grande muraille verte, elle touche aussi les villes. Comment ça s'illustre en particulier, disons à Pékin, puisque au hasard c'est votre sujet de thèse. Comment on s'y est pris pour verdir la ville de Pékin?
Alors déjà, ils ont protégé en fait les montagnes, petites collines, enfin les montagnes, on va dire, aux alentours. Et en fait, ils vont mettre en place des pépinières périurbaines qui vont servir en fait à alimenter les alignements urbains. Donc il y a vraiment une complémentarité avec des sujets qui vont croître assez proches en fait de leur milieu futur. Donc ça, c'était plutôt bien vu. Et ensuite, en fait, donc il y a ceinture verte, coulée verte, des alignements dans la rue. Donc c'est vraiment toutes les échelles du paysage urbain qui vont être traitées par cette renaturation, cette forestation urbaine.
Qu'est-ce qu'on plante ?
Qu'est-ce qu'on plante ? On plante essentiellement des essences à croissance rapide et robuste. Donc on a famille du sophora, c'est-à-dire robinier, acacia, et des peupliers. Le problème, c'est qu'on a planté essentiellement deux essences, dont une aujourd'hui est malade. Imaginez le désastre, hein. Il faut tout replanter. Enfin, voilà, les experts travaillent sur comment vaincre la maladie plutôt que d'imaginer tout replanter. Mais en tout cas, enfin, voilà, il y a eu une volonté de planter des arbres qui ressemblaient vraiment à juste un manche avec pas d'arbres, enfin, pas de feuilles, rien du tout. On les plante, on arrose et en fait, c'est par le plus grand nombre qu'on espère avoir un couvert massif forestier rapide. Même s'il y en a beaucoup qui meurent, c'est pas grave, il y a de la main d'œuvre en Chine déjà. Donc on peut planter assez rapidement et beaucoup de jeunes arbres.
Encore une toute dernière question, Stéphanie Boufflet. Au-delà de cette pratique consistant à remettre des arbres dans la ville, est-ce qu'on a prêté une certaine attention aux arbres préexistants ou est-ce que, au prétexte que les villes chinoises devaient se transformer rapidement, devaient prendre le train du développement et de la mondialisation, on a fait des coupes franches dans tous les quartiers ?
Alors en fait, le seul élément de la ville qui a été conservé pendant toutes les démolitions qu'on a pu suivre au début du XXe siècle, c'est l'arbre. C'est-à-dire quand il y avait un arbre, le promoteur avait des amendes tellement faramineuses qu'il le conservait. Il y a des voiries qui ont été détournées pour garder les vieux arbres. Et c'est le seul élément, autant l'architecture et l'urbain, ils ont pu démolir les traces même du monde social, on va dire, ils ont démoli, ils ont détruit. Autant l'arbre a été le seul élément du monde vivant qui est conservé et qui prouve bien qu'il y a un certain attachement à la temporalité lente de la nature dans la ville qui peut raccrocher en fait les hommes à une, voilà, à une certaine, un certain idéal de vie dans la ville.
Emmanuel Groutel, c'est intéressant là d'entendre Stéphanie Blouffet, de l'entendre nous raconter l'histoire récente, celle de d'abord dans un premier temps de la déforestation sur ce territoire chinois, puis ensuite de la prise de conscience que évidemment il faut rompre avec tout ça et remettre de l'arbre partout dans les territoires et y compris dans la ville. On comprend mieux là, Emmanuel Groutel, pourquoi au fond la Chine va chercher ailleurs d'une certaine manière le bois et qu'elle fait particulièrement attention à ces arbres et à ces forêts qui sont sur son propre territoire.
On pourrait qualifier ça du, en étant assez sec, de deux poids deux mesures. On a protégé les forêts natives, allant jusqu'à des punitions très très sévères à l'endroit des gens qui pouvaient prélever des chênes de Mandchourie, des choses comme ça. On fait ce programme de plantation, comme il vient d'être souligné, qui est important. On sait très bien qu'une des rares oppositions en Chine, c'est celle liée à l'environnement. On se souvient de l'explosion au port de Tianjin qui avait poussé à la colère les gens. Donc deux poids, deux mesures entre ce qui est mené en Chine, avec ses 208 millions d'hectares de forêt, premier planteur au monde, et une politique souvent très 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 différente dans les pays où elle va s'approvisionner.
Justement, on va aller regarder ce qui se passe dans les pays où elle va s'approvisionner, et en particulier s'agissant du bois de rose. Merci beaucoup Stéphanie Boufflet d'avoir été ce matin en direct avec nous. De l'Amérique latine à l'Afrique, il y a un trafic très important du bois qu'on appelle le bois de rose, qui est d'ailleurs dans le viseur d'Interpol et des ONG. On va s'y intéresser tout de suite.
On va le faire tomber dans quelle direction ? Par là ? En observant bien cet arbre, je peux dire qu'il a entre 50 et 60 ans. Au cœur de l'arbre, on tombe sur la partie rose. Si on arrive vite sur le rose, ça veut dire que l'arbre est bon. La lame a glissé le long du manche et a tapé fort mes doigts. Si on se blesse gravement, on n'a pas de médicaments ou de pansements. On se soigne avec la résine du bois de rose, que l'on passe sur la plaie. Merci au bois de rose. C'est très dur physiquement. Mais quand je pense à l'argent, ça me motive. Les autres boulots dans la région ne payent pas autant.
Voilà, extrait d'un reportage, Les routes de l'impossible, Madagascar, piste saphir et bois précieux, réalisé par Daniel Lenné et David Geoffrion, qui avait été diffusé en juin dernier. On va retrouver un nouvel invité par téléphone depuis Jakarta, c'est Robert Nasik, qui est directeur général du CIFOR, le Centre de Recherche International pour la Recherche sur la Forêt. Alors d'abord, Robert Nasik, je parlais de trafic du bois de rose. En quelques mots, le bois de rose, c'est quoi ?
Ce qu'on appelle le bois de rose, en fait, c'est un ensemble d'espèces d'arbres qui produisent un bois qui est un petit peu l'équivalent de l'ébène, mais qui a une couleur plutôt pourpre, rosée ou rouge foncé, et qui prend un très beau poli, qui est très dense, et qu'on utilise en marqueterie ou pour faire des guitares de grande valeur. Donc c'est vraiment ce qu'on appelait à une époque aussi le palissandre, en Madagascar par exemple.
Et que visiblement les Chinois aiment tout particulièrement, ils appellent ça le hongmu, qui veut dire bois rouge. Qu'est-ce qu'ils en font de ce bois rouge, les Chinois?
Mais ils en font des très beaux objets de marqueterie, des meubles de luxe. C'est vraiment pour le haut de gamme du marché.
Oui, visiblement, le mobilier de la Chine impériale fait un grand retour aujourd'hui. Les classes moyennes en sont particulièrement friandes, ce qui explique peut-être cette demande chinoise. Robert Nasik, certains de ces bois sont réglementés, sont inclus dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, ce qu'on appelle le CITES, qu'on appelle aussi parfois la Convention de Washington, qui a été signée en 1973. Est-ce que c'est un dispositif qui est efficace pour la protection du bois de rose ou pas du tout?
La CITES est efficace en ce qui concerne le commerce international. En particulier, toutes les espèces de bois de rose de Madagascar, donc qui appartiennent aux gens d'Albergia, ont été placées en annexe 1 de la CITES, donc vous ne pouvez pas en acheter légalement. On peut les exporter que sous des conditions très très particulières pour la recherche, etc. Mais par contre, bon, il y a d'autres espèces donc qui sont des ptérocarpus d'Afrique centrale qui sont maintenant utilisés par les commerçants légaux ou illégaux pour le bois de rose, qui viennent juste d'être ajoutés à l'annexe 2 de la CITES, c'est-à-dire on peut les exporter, mais avec un certificat qui justifie de la légalité et de la durabilité de leur exploitation. Mmh. Donc en théorie, oui, la CITES, ça la fonctionne, mais cela fonctionne à partir du moment où on est prêt à suivre les règles.
Pour voilà. Regarder justement qui il y a derrière ces trafics de bois de rose, les réseaux qui organisent ce trafic, c'est quoi ? Ce sont des acteurs locaux qui fournissent à des opérateurs qui ensuite vont faire remonter jusqu'à la Chine, par exemple, puisqu'on sait que c'est un grand demandeur de ce type de bois. Est-ce que ce sont des commerçants chinois qui vont directement sur place organiser des opérations de coupe? Comment ça se passe?
En général, ce qu'on a pu remarquer, c'est que ce sont des réseaux de type mafieux bien développés et qui, en fait, en ce moment, consomment du bois de rose, mais pourraient trafiquer du diamant ou de l'écaille de pangolin de la même manière. C'est des gens qui répondent à une demande d'un marché pour un produit qui est rare ou très cher ou très restreint, comme la corne de rhinocéros, et qui répondent à ce marché. Et donc, en fait, ils s'adaptent. En fonction de la demande, ils vont récolter tel ou tel produit, ils vont bouger dans tel ou tel pays. Madagascar devient compliqué, on va en Zambie, la Zambie devient compliquée, on bouge en République démocratique du Congo. C'est pas des gens qui sont attachés particulièrement au commerce de bois de rose, mais c'est des gens qui ont tout un réseau en place pour exploiter illégalement ou légalement, exporter illégalement ou légalement et vendre illégalement ou légalement.
Si je reviens un instant sur la CITES, normalement ce type de bois, il est protégé par les annexes de la CITES. Est-ce qu'il arrive qu'on arrête des trafiquants? Est-ce que c'est extrêmement rare? Et qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce qu'il y a des amendes? Quel genre d'amende? Est-ce que ça peut aller jusqu'à de la prison? C'est quoi les protections qui sont prévues?
Pour autant que je me souvienne, il y a eu ces dernières années plusieurs saisies d'exportation illégale de bois de rose depuis Madagascar et la Zambie. Il y a eu des personnes arrêtées, il y a eu les stocks de bois saisis, etc. Mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu à l'heure actuelle une condamnation. Mais les gens risquent effectivement à la prison des lourdes amendes. Mais les gens que l'on arrête bien souvent, c'est pas forcément les commanditaires ou les plus importants. On arrête les petits qui sont en bas de la chaîne et pas forcément les gros qui sont en haut de la chaîne.
Oui, j'ai vu moi passer dans la documentation pour préparer notre entretien qu'en 2015, Interpol avait arrêté 240 personnes et saisi pour 262 millions de dollars. Vous parliez de Madagascar à l'instant. Il se trouve que dans l'actualité récente, il a été question de trafic de bois de rose puisque la cour d'appel du pays rejugeait l'affaire dite du flying. Alors vous avez probablement entendu parler de cette affaire-là. C'était le nom de ce navire chinois qui avait été interpellé dans les eaux territoriales en décembre 2018. À l'époque, on n'avait pas trouvé de bois précieux dans les cales, sauf que certaines étaient restées scellées et que l'enquête visiblement n'avait pas été très très poussée et que les ONG y avaient vu une forme de manque de volonté des autorités malgaches. Est-ce que vous allez aussi dans le sens de cette analyse des ONG, Robert Nassy? Et la question plus globale, c'est qu'est-ce qu'il vous semble être aujourd'hui la volonté de l'État malgache de lutter contre ce trafic de bois de rose? Est-ce que vraiment il est impliqué ou est-ce qu'au fond, il laisse faire?
Je pense que l'État, au niveau national, est impliqué et est conscient de ce que ce trafic peut apporter en termes d'image négative pour le pays. Le problème, c'est quand on passe à d'autres niveaux où, effectivement, il est toujours possible de donner un dessous de table à tel ou tel fonctionnaire dans un coin éloigné. Ces personnes ne sont pas très bien payées, quand elles sont payées, elles ne sont pas très bien équipées et donc sont des proies faciles pour des commerçants ou des exploitants qui ont une grosse quantité de liquide qui peuvent débourser. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé dans le cas du flying, mais en tous les cas, ce ne serait pas étonnant que quelqu'un ait été payé quelque part pour fermer les yeux. Et je pense que l'État au niveau central essaye de faire du mieux possible. C'est d'ailleurs pour ça que aussi les saisies ont augmenté. Et c'est pour ça aussi que, alors que le bois de rose était parfaitement légal à exploiter, maintenant il devient beaucoup plus difficile, beaucoup plus contraint. Mais après, ce qui se passe au niveau des administrations provinciales, c'est un peu plus compliqué.
Mais plus contraint, c'est même plus que ça, Robert Nassy, puisque au mois d'août, les autorités se sont engagées à ne plus vendre de bois de rose pour le moment. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Environnement mi-août. Aucune commercialisation de bois précieux n'est envisagée pour le moment. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités, là, qui C'est une nouvelle administration qui est arrivée en place, puisque un nouveau président qui est arrivé au début de l'année. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une rupture et qu'on se décide enfin à lutter contre ce trafic de bois de rose, ou est-ce que c'est seulement de la communication et d'ici quelques mois, quand les choses seront retombées, on reprendra le bon vieux commerce de bois de rose qui rapporte tellement?
Non, je pense que c'est effectivement le changement de régime, le changement de gouvernement et des gens qui arrivent avec des bonnes intentions. Dans quelle mesure ils seront capables de vraiment mettre en œuvre ces bonnes intentions, ça dépendra effectivement de la mesure dans laquelle ils pourront aider et soutenir leur administration locale vis-à-vis de la demande qui ne va pas cesser tout de suite. Hein. Les commerçants illégaux ne vont pas cesser tout de suite. Ils vont tester et essayer de trouver le maillon faible de la chaîne et s'il y en a un, c'est par là qu'ils vont passer.
Oui, surtout que s'il y a aujourd'hui un moratoire sur le commerce de bois de rose, en réalité, il y a encore d'énormes stocks sur le territoire. Visiblement, on enterre les grumes dans le sable qu'on ressort par petites touches pour charger les navires chinois, donc c'est probablement pas fini. Et puis, il y a d'autres pays qui aussi, parfois, arrêtent le commerce et le reprennent. Je pense à la République démocratique du Congo, par exemple.
Ce qui se passe dans ces domaines où vous avez une ressource qui peut se trouver dans différents pays, c'est qu'il y a des phénomènes de fuite ou de contagion. C'est-à-dire, bon, Madagascar arrête ou met un moratoire sur l'exploitation du bois de rose, mais la Zambie ou la RDC ne l'ont pas, donc on va bouger en Zambie, en RDC. C'est la capacité de ces réseaux illégaux de bouger, d'être très mobiles, qui les rend très difficiles à contrôler, quoi.
Ce qui nous laisse penser que ce trafic de bois de rose, il n'est pas prêt de s'arrêter. Il y a évidemment de l'argent derrière. Il y a des réseaux de trafiquants qui peuvent s'adapter. Ça sera très compliqué.
Ça sera très compliqué, oui et non. C'est un petit peu comme le commerce d'éléphants ou le commerce de cornes de rhinocéros. À partir du moment où on arrivera à une sorte de décision, ok, tous les pays sont prêts à protéger l'espèce, ce sera un peu plus facile, mais on le voit avec des espèces menacées comme le rhinocéros, ça n'empêche pas qu'il y ait plus de 2000 rhinocéros qui ont été tués depuis le début de l'année.
Ouais.
C'est vraiment, le problème, c'est de convaincre le marché, les acheteurs, qui peuvent effectivement avoir un produit équivalent, mais un produit exploité durablement et légalement. Si on n'arrive pas à convaincre la demande, il y aura toujours quelqu'un qui sera d'accord pour fournir le produit.
Merci beaucoup, Robert Nassi. Vous voulez réagir, Emmanuel Groutel, peut-être en quelques mots sur ce trafic de bois de rose?
Peut-être une conclusion positive, un matériau du 21e siècle, qu'est le bois. Et puis, pour rebondir sur ce que vient de dire Robert Nassi concernant l'Afrique, il y a aussi des très très bons acteurs dans la foresterie africaine qui méritent amplement d'être soutenus par le privé, par le public, par les ONG, et qui donnent des notes d'espoir après notre revue un petit peu délicate.
Et ben voilà une bonne nouvelle. Beaucoup à Robert Nassi qui est avec nous depuis Jakarta, qui est donc le directeur général du Centre de Recherche Internationale pour la Recherche sur la Forêt. Un grand merci Emmanuel Groutel de nous avoir accompagnés ce matin, de nous avoir éclairé sur ce commerce du bois. C'est quand même un sujet qu'on n'aborde pas très souvent. Je vous remercie infiniment de l'avoir fait ce matin avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en gestion, spécialiste du commerce international du bois évidemment, et donc consultant pour la FAO, la AFD, l'Union Européenne et beaucoup d'autres entités encore. Merci beaucoup.